Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Bonjour à tous, nous vous présentons une nouvelle émission Mode d'emploi. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benoît Genuini, qui est l'ancien médiateur de Pôle emploi.
Bonsoir.
Bonsoir Ludo.
Bonsoir.
Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Genuini. Vous avez accepté de nous rejoindre ce soir, on est donc très heureux de vous accueillir. Notamment sur une actualité sociale qui est pas un peu chaude pour la rentrée. Et nous allons passer un document concernant en fait la conférence qu'il y a eu sur les précaires. Nous allons écouter ensemble. Ludo, tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît?
Oui, bah écoute, les mouvements de chômeurs, donc AC, MNCP et la PES, qui se sont réunis pour parler de la réforme des retraites, puisqu'ils sont en tant que précaires concernés. Voilà, puisque le chômage est le chômage grève un peu les retraites, les futures retraites des précaires. Donc on va écouter tout de suite leur témoignage, puisqu'ils ont à dire.
D'accord.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Bon, on vous remercie d'être venu. On vous fait une conférence de presse aujourd'hui au titre avec les quatre organisations de chômeurs. Alors, qui vont déjà, on va déjà nommer ici. Vous avez le MNCP, dont je suis le président national, Marc Desplat, BESPLATS. Voilà, nous sommes donc quelques-uns du MNCP. Vous avez également la PEIS, je ne sais pas si voilà, un camarade de la PEIS. La CGT privée d'emploi, il faut dire, CGT chômeur, CGT privée d'emploi, et AC, ici présent. Voilà. Donc nous sommes les quatre organisations qui regroupent les chômeurs et les précaires dans ce pays, qui s'investissent plus particulièrement là-dessus, par rapport aux syndicats d'une façon générale. La CGT a une section particulière, vous voyez. Et on est à la veille d'une journée de mobilisation sur les retraites. Donc c'est le thème de notre conférence de presse aujourd'hui. Parce que nos adhérents et toutes les personnes qui sont au chômage ou en précarité sont vraiment les plus touchées par le problème des retraites, beaucoup plus que les personnes qui sont en CDI. Et c'est ça qu'on veut montrer et qu'on veut que la dégradation de la situation et les risques pour des nouvelles mesures qui se préparent portera beaucoup plus de conséquences. Les conséquences seront beaucoup plus graves pour les gens au chômage ou en précarité que pour les gens en CDI. Il faut donc que nous nous impliquions et nous avons la ferme intention de nous impliquer complètement dans ce débat pour que si une négociation y a, mais il n'y a pas eu grand-chose comme négociation, les chômeurs et précaires ne soient pas oubliés, qui ont des problèmes spécifiques. Alors les chômeurs et précaires, c'est qui? C'est combien de personnes? On sait qu'il y a 10% de personnes inscrites au chômage, mais il faudrait ajouter plus de 10% de personnes, beaucoup plus de 10% de personnes qui sont en précarité, forte précarité, ou RSA, ou des emplois précaires, des petits boulots, et qu'il ne leur donnera pas de retraite conséquente. Et c'est tous ces gens-là qu'on veut, qui sont très nombreux et qui se passent des fois à la trappe dans toutes les négociations. Les contrats en CDI sont qui restent peut-être le socle du contrat de la base, sont quand même ces dernières années en diminution. Voilà. Et à monter de la précarité. Alors, il y a également augmentation du chômage des seniors. l'entrée de plus en plus tardive des jeunes sur le marché du travail, des parcours qui sont de plus en plus saucissonnés. Je voudrais quand même vous donner un petit peu le résumé de notre plateforme commune. On va distribuer ça à tout le monde. Comme ça, vous aurez un écrit qui va vous aider à suivre. Le problème des gens qui passent d'une caisse à une autre, des polypensionnés, qui, par exemple, sur l'histoire des 25 meilleures années, il y a de moins en moins de gens qui arrivent à avoir 25 bonnes années pour toucher la retraite. Et les polypensionnés, ceux qui relèvent de plusieurs caisses, on compte les 25 meilleures années au titre de cette caisse-là. Donc s'ils ont 25 bonnes années, mais qu'ils n'en ont que 10 là et que des mauvaises, etc. Vous voyez, à chaque fois, c'est ces gens qui sont en précarité et qui passent d'une caisse à une autre ont des problèmes pour faire valoir leurs droits. Les gens qui sont au RSA, qui sont non indemnisés, où on ne compte pas pour eux des trimestres.
Voilà.
Et donc nous dénonçons fortement, premièrement, le fait de vouloir augmenter l'âge de départ en retraite, 60 à 62 ans, et de même que le système 65-67. Parce que ça va augmenter fortement les personnes au chômage. Les personnes qui, entre 60 et 62 ans, pouvaient dire enfin on va pouvoir souffler un peu, on va pouvoir toucher, même si c'est une petite, mais quand on est en ASS à 450 € par mois, on pouvait se dire ben, j'aurai un peu plus. Et puis au moins je serai un peu plus tranquille dans ma situation et pas toujours sous le coup de la société qui dit les gens qui ne trouvent pas de chômage, ils ne cherchent pas, etc., etc. Toute la stigmatisation des personnes au chômage. C'est pas les vieux, c'est pas les seniors qu'il faut mettre au pour qui il faut trouver des emplois et à qui il faut faire profiter les emplois. C'est surtout aux jeunes qui ont de plus en plus de mal à rentrer dans la vie professionnelle. Par contre, les seniors, l'important, c'est qu'ils puissent le plus vite possible arriver à une situation tranquillisée, assurée et toucher une retraite quand c'est possible. Et donc le taux de chômage va augmenter du fait de cette mesure. Ça va mettre en plus en difficulté le système d'assurance chômage parce qu'on fait c'est un report de finances des caisses de retraite sur les caisses de chômage. Ça ne règle pas le problème du tout. Nous sommes également contre le calcul basé sur les 25 meilleures années, qui est une des pires mesures qui ait été faite ces dernières années contre les personnes en précarité ou au chômage, qui ont énormément de difficultés. Il faut savoir qu'actuellement, quelqu'un qui reprend du travail, ça fait baisser sa retraite. Et ça, je voudrais vous rendre sensible à ça. S'il n'a pas ses 25 meilleures années, s'il en a par exemple une vingtaine de bonnes années et qu'il retrouve un petit boulot, on lui comptera dans cette année-là très peu de travail et donc on l'intégrera dans ses 25 meilleures années une année mauvaise, une année néfaste qui va faire baisser sa retraite. Un chômeur n'a pas toujours intérêt, s'il pense à sa retraite, à reprendre du travail. Voilà, ça c'est très important à dire. Nous sommes pour un élargissement de l'assiette de cotisation. Au niveau des ressources, on nous dit, on fait peser tous les efforts sur les mêmes. Nous pensons qu'il faut qu'au niveau des entreprises, on élargisse l'assiette de cotisation, qu'elle ne soit pas uniquement sur les salaires, mais sur l'ensemble de la richesse produite par l'entreprise, qui comprend les investissements, qui comprend les actifs qui sont produits et qui sont redistribués aux capitalistes. Et voilà, donc tout ça il faut élargir l'assiette sur l'ensemble, comme vous savez que la valeur ajoutée est composée en trois parties, et pas que ce soit repose que sur les seuls salaires, ce qui permettrait déjà de permettre que les entreprises de main-d'œuvre ne supportent pas tout le poids des retraites, mais que l'ensemble des entreprises, même celles qui sont très automatisées, qui ont très forte valeur ajoutée, participent plus au financement des retraites. qu'il y ait aussi personnalisation des droits. Il faut aller vers des droits pour chaque être humain, indépendamment de son parcours de vie, de sa situation de famille. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été en forte précarité, qui a été au chômage toute sa vie, il ait droit aussi à une retraite. Ça veut dire que les cotisations sont mutualisées, d'une part, au niveau des cotisations, dans des caisses communes pour tout le monde, pour en faire profiter tout le monde, même ceux qui n'ont pas pu avoir les années de travail suffisantes. Et voilà. Ensuite, les minima sont très insuffisants. Nous préconisons que les minima de retraite et tous les minima en général et toutes les formes de chômage soient revalorisées très fortement. Le minimum vieillesse actuellement est autour de 650, je crois. L'ASS, la RSA, 450, ce sont des sommes avec lesquelles on ne peut pas vivre, on ne peut pas payer un loyer. Et voilà, nous voulons souligner fortement cette question-là. Et nous voulons que les personnes qui ne cotisent pas, qui ne peuvent pas cotiser parce qu'elles sont en RSA, parce qu'elles sont au chômage non indemnisé, aient droit également, comme tout le monde, à leur trimestre. Et a donc une retraite. Voilà. Tout ce que nous préconisons. Voilà, maintenant, ça c'est le général, si vous voulez. Chaque organisation va pouvoir s'exprimer plus particulièrement, parce qu'on a évidemment, comme on est quatre organisations, on peut avoir des sensibilités un petit peu différentes. D'accord. Voilà.
Donc Alain Marcu, porte-parole de l'AC.
La retraite, c'est un contrat social depuis 1945. C'est du temps de travail, c'est-à-dire du temps contraint. Et sous le contrat, il y a du temps libre. C'est la retraite. Il est évident que le fonctionnement des entreprises aujourd'hui fait que ils font beaucoup plus de bénéfices. Le produit intérieur brut augmente, la productivité augmente. Je reprends les échos assez souvent là-dessus, ça va très bien pour nous, enfin en tout cas pour les entreprises. Il y a beaucoup de délocalisation et donc de moins en moins de charges salariales. Ça fait partie de ce qu'on appelle les tableaux de bord en économie, qu'on apprend dans les facultés, c'est-à-dire que quand on vire 5 salariés, on a gagné grosso modo 150 000 euros que l'on peut remettre dans l'actionnariat. Deuxième point, l'explosion des revenus financiers par rapport à l'assiette salariale a augmenté de 17 000% depuis 1949. Ce qui veut dire que ces revenus financiers sont sortis des contributions sociales. Et j'insiste sur le terme contribution sociale, ce ne sont pas des charges, c'est une contribution au fonctionnement de la société et des individus qui y sont des citoyens. Actuellement, quand il n'y a pas une société, doit assurer le fonctionnement. Et c'est une question de principe. Le fonctionnement et la survie, la vie des citoyens qui y sont. Les critères aujourd'hui qui sont en projet, on pourrait les personnaliser avec le gouvernement Sarkozy-Fillon-Woerth. Mais simplement, il faut le savoir, ça fait partie des recommandations du traité de Lisbonne qui a été mis en forme, qui a été décidé en 2001 par la réunion des gouvernements, des chefs d'État européens et qui vient d'être mise en forme, et en tout cas plus précisément, sous la forme d'un livre vert issu de l'Union européenne. Donc ce n'est pas seulement un problème français. Il s'agit de rentrer dans des critères où, en fin de compte, on va laisser, alors là je suis beaucoup plus ferme, donc on va laisser crever les gens de manière à ce que de toute façon, tout le long de leur vie, ils aillent faire des petits boulots pour pouvoir survivre. C'est donc dans un vaste projet que sont noyés, et peu de gens en parlent, tout ce qui est chômeur, précaire, jeunes en recherche d'emploi ou travaillant avec des CDD, tous ceux qui vont arriver qui sont en fin de droit, ceux qui passent des périodes au RMI, etc. À l'arrivée, le réveil sera effectivement ce que mes collègues et comme les copains ont dit. Et là, nous rentrons, nous, associations de lutte contre le chômage et contre les conséquences du chômage, nous rentrons vraiment au front, on s'attaque là réellement à la répartition des richesses dans nos revendications. Il est justement l'individualisation, on parlait de citoyens tout à l'heure, chaque individu doit avoir, la société doit lui donner les moyens d'exister. Et il est inadmissible qu'il y ait une telle différence entre les revenus financiers qui ne sont pas inclus dans les contributions sociales. C'est actuellement le mécanisme qui est déjà mis doucement en place et qui est au cœur du projet. Ce qui veut dire que, comme l'ont dit, ça a été dit tout à l'heure, on peut retrouver effectivement pas mal de chiffres, tous les gens qui sont au RMI et à SA, mais on oublie aussi d'autres catégories, comme le chômage partiel. On oublie également les gens qui sont pris à la gorge et qui se mettent auto-entrepreneurs. Je rappelle qu'on estime, alors, tu as les chiffres, mais grosso modo, 150 000 auto-entrepreneurs qui gagnent moins de 450 euros par mois. Moyennant, en plus, il va falloir qu'ils payent leurs charges. Donc c'est complètement précaire et au bout d'un an ou deux, de toute façon, ils déposent comme beaucoup. Donc voilà, on n'est pas du tout qu'il s'agit d'un projet global de société au niveau européen. On voit très bien ce qui se passe en Grèce, on voit ce qui se passe en Espagne, on voit ce qui se passe en Allemagne avec le plan Hart et les constitutions de retraite, et j'en passe, c'est des meilleurs. Le but et le projet de société qu'il y a derrière, c'est que plus les gens sont précaires, plus ils sont corvéables à merci. Et ça, c'est un regard qui est plus politique. Maintenant, nous, on est là pour défendre en tout cas et porter l'attention sur ce qui se passe au niveau des conséquences pour les chômeurs précaires, sachant que la précarité, alors il est difficile d'avoir des chiffres précis, on en parlait tout à l'heure entre nous, on estime on va dire quoi, 70-60% des contrats sont en CDI, ce qui laisse quand même entre 25 et 30% de la population en contrat précaire. Comme par hasard, bien entendu, c'est beaucoup les femmes, les jeunes et les gens qui ont plus de 50 ans. Donc, il s'agit, quand on a de tels phénomènes, ça ne peut être que des projets pensés. Donc, on ne croit pas du tout qu'il s'agisse de quelque chose qui tombe du ciel.
Alors, comme vous l'avez compris, c'est un appel à participer aux manifestations du 7 septembre. Que tous les chômeurs et précaires n'hésitent pas à y aller, nous rejoignent nos organisations, se rendent compte que si nous sommes nombreux, nous sommes plus forts.
Mais où ? C'est-à-dire que vous donnez rendez-vous à un endroit
particulier ? Oui, on donne rendez-vous à la République. Tu sais, c'est très discret, on arrive à se retrouver, il n'y a pas de problème.
Pour ce qui est de Paris, mais il y aura
Paris, Paris.
La manifestation n'est pas, voilà, pas centralisée sur Paris, donc oui. On va avoir des manifestations un peu partout dans les régions. Mm-hmm. Dans la mesure du possible, on mettra ça sur nos sites internet, je pense.
Sur vos sites,
quand on a les lieux de rendez-vous, ça va être c'est plus simple.
D'accord.
Alors, c'est déjà parti. Précision. Donc je pense que les camarades d'AC seront d'accord, les camarades de la CGT sont d'accord. Nous, on a un point bien précis de rendez-vous, c'est devant Habitat à République.
Le magasin.
Bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 de la bande FM. C'est toujours l'émission Mode d'emploi. Vous venez d'entendre à l'instant Marc Desplat du MNCP et Alain Marcu d'AC parler de la retraite des précaires et des chômeurs. Nous recevons ce soir Monsieur Benoît Genuini, ancien médiateur de Pôle emploi, pour nous parler évidemment de de son rôle à Pôle emploi et de ce qu'il en a tiré comme conclusion. Bonsoir monsieur Genuini, est-ce que vous avez une réaction à ce que vous venez d'entendre, notamment sur
la difficile question de la retraite des chômeurs de longue durée.
Bon, d'abord, ce sont des questions techniques très pointues, mais moi, deux réactions, justement, un peu en liaison avec mon activité de médiateur pendant 15 ou 16 mois à Pôle emploi. D'abord, c'est important parce qu'il y a très peu d'organisations pour représenter les chômeurs ou les gens qui sont en réelle difficulté, un peu en exclusion du monde du travail. Donc c'est important qu'il y ait des associations de chômeurs comme celle qu'on vient d'entendre, ou des mouvements qui portent un petit peu cette parole, ou qui aient des manières de faire, et j'ai essayé de relancer les comités de liaison à Pôle emploi pour ça, pour qu'on puisse écouter la parole des gens qui sont en difficulté, pour qu'on comprenne leurs problèmes et qu'on puisse le prendre en compte, par exemple, dans cette question des retraites, évidemment. Et puis la deuxième chose, et là, on peut espérer que tout projet de réforme prendra ça en compte, c'est que dans le monde du travail, maintenant, on est en face d'une fabuleuse diversité. Et même quand quelqu'un est au chômage, il y a des milliers de situations différentes de chômage, d'activités réduites, et de situations individuelles. Et ce qui est important, c'est pas qu'on rêve d'une loi ou d'une réforme qui va s'appliquer uniformément de la même manière à tout le monde, même si c'est un beau principe d'égalité, mais qu'on soit capable de traiter des cas particuliers. C'est pour ça, quand on entend par exemple les injonctions de l'âge de la retraite, bon, ce serait bien qu'on soit un tout petit peu plus nuancé et subtil, et qu'on envisage ça en fonction de situations individuelles différentes. C'est évident que des gens qui ont commencé à travailler plus tôt ont a priori droit à partir en retraite plus tôt, que des situations de travail plus pénibles devraient pouvoir ouvrir droit à une retraite un peu plus tôt, par exemple. Bon, tout ça, ce sont des situations très diverses qu'il faudrait que toute réforme sache prendre en compte, ou qu'il y ait un dispositif qui puisse le prendre en compte. C'est un peu pour ça d'ailleurs que le médiateur, pour revenir au médiateur à Pôle emploi, existait, parce que lui, il est là un petit peu pour prendre plus le temps d'écouter des situations individuelles un peu compliquées qu'un conseiller de Pôle emploi n'a pas le temps de prendre, parce qu'il doit appliquer le règlement très rapidement, très efficacement, et faire ce traitement du plus grand nombre. Tandis que quand il y a des cas particuliers, ben, ma foi, il faudrait pouvoir avoir une instance, c'était un peu le médiateur, c'est un peu son rôle, qui peut regarder ces cas particuliers.
Alors justement, on va parler maintenant de votre rôle de médiation. Alors Christian, tu es le plus qualifié pour...
vous aviez fait une préconisation, un rapport de 90 pages au mois de mars. Donc on trouve ce rapport encore en ligne sur la documentation française, il me semble. Et vous aviez fait des remarques très précises sur des dysfonctionnements, on peut dire, dans certaines situations. Moi, j'avais relevé, par exemple, les difficultés de délai pour recouvrer des sommes, des indus, en fait, pour des demandeurs d'emploi. Donc, des sommes qu'ils pouvaient récupérer, ils mettaient plusieurs mois à les récupérer. Certains dossiers perdus. Vous aviez suggéré de rendre possible le cumul de l'ARE et de la pension d'invalidité. Et j'avais encore relevé deux choses. Vous aviez aussi fait des remarques sur le cumul d'allocations et activités réduites. Et vous aviez enfin souhaité assouplir l'examen, c'est-à-dire à 4 mois pour les gens qui n'ont pas d'ouverture de droit. Voilà, c'était quand même quelque chose de constructif, je trouve. Et est-ce que vous pensez que ces mesures sont toujours d'actualité ?
Alors oui, dans ce rapport, il y avait deux types de mesures et propositions. Il y avait 4 propositions, et vous venez de les évoquer presque toutes, je crois, qui visaient à modifier un petit peu le règlement de l'assurance chômage. Donc ça, c'est les organisations syndicales paritaires qui doivent s'en occuper. Et quand j'ai présenté le rapport au conseil d'administration, il y avait toutes les organisations paritaires là, et tout le monde a plutôt assez favorablement réagi. J'ai même vu ensuite des représentants de la CFDT, de la CGT, qui à l'époque m'ont dit, mais qui regarderaient ça à l'occasion des négociations sur la future convention d'assurance chômage, donc à sortir pour début 2011, je pense. Parce que ces propositions, c'était vraiment des propositions d'amélioration de points de règlement qui paraissaient un petit peu bizarres et qui laissaient un peu d'injustice pour certaines personnes. Revenir. Et puis il y avait 2 autres propositions là, qui étaient plus sur le fonctionnement même de Pôle emploi, donc qui ne faisait pas partie du règlement d'assurance chômage, mais qui était sur la façon de, bah, de traiter les usagers, les chômeurs. Il y avait des propositions sur le courrier qui, pour moi... comment dirais-je, stigmatise un petit peu la difficulté, enfin personnifie un petit peu la difficulté de la relation entre une grosse machine comme Pôle emploi et un usager qui est lui un petit peu tout seul, perdu, qui connaît en général pas le règlement, parce qu'il est très compliqué ce règlement, et qui a besoin d'explications, et qui a en plus besoin d'explications parce qu'il a une situation de fragilité assez importante. Et parfois il y a des courriers que le système envoie. C'est l'ordinateur qui envoie le courrier de façon automatique, mais il y a des gens qui reçoivent ces courriers et qui perçoivent ça comme une véritable agression. Plus tout un tas d'erreurs, bien entendu, parce qu'on laisse faire un peu l'ordinateur, la machine, et que l'humain ne reprend pas la main avant d'envoyer un courrier. Et puis il y avait une autre proposition aussi, ce qui était sur la possibilité d'encadrer un peu les conditions dans lesquelles on cesse de verser l'allocation à des personnes parce qu'on les soupçonne de fraude. Et là, on a pu voir dans certaines régions, dans certains cas, qu'il y avait de la part de la direction de la prévention des fraudes, parfois des excès de zèle à trouver que quelqu'un était fraudeur. Et ça met des gens dans des situations évidemment tout à fait critiques, parce que tout d'un coup, sans explication, on leur arrête leur allocation. Et ça peut mettre parfois des mois à se justifier. Alors quand ce sont des fraudeurs, ma foi, bon, tant pis. Mais on a un certain nombre de cas de gens qui s'adressaient aux médiateurs qui n'avaient pas du tout fraudé, qui ne comprenaient pas pourquoi on leur arrêtait leurs allocations.
Est-ce que vous avez rencontré souvent des cas de radiation pour non-présentation à des entretiens ou, disons, des dysfonctionnements dans le... Puisque c'est une grande revendication des associations de chômeurs, c'est d'avoir des contrôles extrêmement tatillons de la part de Pôle emploi, notamment sur des non-réponses à convocation et des radiations qui suivent. En outre, il me semble que les radiations quand même jouaient un rôle pendant une période dans le chiffre du chômage produit par la DARES en 2006-2007.
Alors, en fait, je l'ai dit dans le rapport, on a finalement relativement peu des réclamations qui arrivaient jusqu'au médiateur qui concernait des cas de radiation. Je crois me souvenir, à peu près 5% de nos réclamations concernaient des cas de radiation. Donc ça ne paraît pas pour le médiateur aussi important que ça. Alors il faut bien voir que pour saisir le médiateur, il faut d'abord avoir fait une démarche auprès de son agence Pôle emploi. Il faut que ça soit une réclamation de deuxième niveau, c'est-à-dire qu'on n'ait pas obtenu satisfaction à une démarche, à une réclamation qu'on a faite d'abord localement à son agence. Et à ce moment-là, si on n'est pas content, on peut saisir le médiateur. Ça veut dire que toutes les réclamations qui arrivent chez le médiateur sont entre guillemets filtrées un petit peu et qu'elles sont toutes passées par un examen au niveau de l'agence locale. Et je pense que si on a peu de radiation qui arrive au médiateur, c'est que beaucoup de cas sont résolus au niveau local. Ce qui est un peu logique, puisque c'est au niveau local qu'on connaît le mieux le dossier de la personne, qu'on connaît la personne et qu'on connaît les conditions éventuelles d'une radiation éventuellement abusive. Bon, tant mieux, tant mieux et tant pis, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de radiation abusive du tout, bien entendu, parce que c'est vrai que même au niveau du médiateur, au deuxième niveau, on a vu arriver des cas tout de même un tout petit peu extraordinaires, des gens qui sont radiés simplement parce qu'ils ne sont pas présentés à une convocation par téléphone, alors que ça c'est tout simplement illégal, mais sur lesquels leur première réclamation au niveau local n'a pas abouti et qui ont dû demander au médiateur pour résoudre le problème. Bon, il y a des cas effectivement un peu farfelus, mais encore une fois, ceux qui arrivaient chez le médiateur n'étaient pas la majorité des réclamations, parce que je crois que c'est tout de même beaucoup résolu au niveau local dans chaque agence.
Excusez-moi, vous aviez beaucoup de demandes en termes de médiation ?
Alors, vers la fin de l'année, c'est-à-dire quand on a été plus connu, parce que j'ai pu mettre sur le site internet de Pôle emploi qu'au mois d'août, un petit encart pour donner la démarche, expliquer la démarche pour saisir le médiateur, donner l'adresse, etc. Mais donc, sur le dernier trimestre, en gros, on recevait au niveau national 1 millier de réclamations par mois.
Oui. D'accord.
Une grosse moitié seulement était recevable par le médiateur au sens où les gens avaient d'abord fait une démarche au niveau local. L'autre, c'était vraiment le coup de sang immédiat, sans avoir passé par son agence ou son directeur d'agence pour essayer de faire résoudre le problème.
Et donc, les délais d'attente pour...
pour le traitement, moi, voilà, pour la réponse du médiateur.
Je par exemple, je suis chômeur, je suis Pôle emploi, j'ai besoin de vous voir, je vous envoie un courrier donc pour vous saisir. J'attends combien de temps avant d'être reçu ou d'avoir mon dossier traité par vous?
Alors, bon, ça c'est une grande question. J'ai pas exprès voulu mettre, à l'époque, maintenant, moi, comme vous savez, j'ai démissionné depuis le mois d'avril, donc je ne sais pas ce que mon successeur a voulu faire, mais non, j'ai pas voulu mettre de pression sur toute ma petite équipe sur les délais d'instruction. Parce que je crois que beaucoup des gens qui s'adressaient à nous, ils attendaient qu'on regarde bien en détail, qu'on comprenne bien leur situation, quitte à prendre un petit peu le temps, et pas qu'on prenne une décision très rapide. Souvent, les gens souffrent de, non pas du règlement qui est mal fait, parce que le règlement est plutôt mal fait, mais qu'on applique le règlement trop vite, sans avoir compris leur cas particulier, sans avoir pu prendre le temps. Alors, de la part de conseillers qui sont un peu surchargés, c'est logique. Mais le médiateur, lui, il doit pouvoir prendre le temps. Vous savez, quelqu'un me disait un jour, je n'avais jamais noté, que médiateur, c'est le contraire de immédiat. C'est-à-dire que le médiateur ne peut pas, on ne veut pas travailler dans l'immédiateté. Donc, je ne voulais pas qu'on ait des délais trop longs. Alors, ceci étant, en général, c'est clair qu'on aboutit entre une semaine et un mois à pouvoir répondre et donner une réponse quasi définitive à la personne, qui peut être malheureusement que la décision qui a été prise à son égard, elle est justifiée, mais on lui explique là. Et il y a beaucoup de gens, bizarrement, si vous voulez, qui nous disaient merci quand on leur expliquait, même si on ne changeait pas la décision initiale qui a été prise dans leur rencontre. Les gens disaient, merci de m'expliquer, vous êtes le premier qui m'explique.
D'être pris en compte et d'être compris, en fait, par quelqu'un d'attentif, simplement.
Tout simplement, vous êtes écouté. Et, voilà. Et les gens souffraient beaucoup de ne pas pouvoir être écoutés. Une fois, j'ai eu une dame, là, vers la fin, j'ai eu une dame au téléphone, parce qu'on a commencé à échanger par téléphone. Elle m'appelait souvent. Mais la première fois qu'elle m'a appelé, que je l'ai appelée au téléphone là, pour traiter son cas de figure, elle m'a dit, écoutez, je ne sais pas si on va arriver à traiter le problème, mais en tout cas, pouvoir vous parler, ça me fait un bien fou déjà, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, depuis 17 mois, je n'ai pas pu parler à quelqu'un de Pôle emploi.
Oui, il y a des moments d'autisme administratif dans cette structure.
C'est pas à Pôle emploi qu'on peut plus rencontrer de conseillers quand on veut s'inscrire, qu'on est obligé de téléphoner, d'utiliser un numéro de téléphone qui marche pas toujours très bien.
Moi, je voulais vous demander, monsieur Genuini, ce que vous pensez de l'irruption de la technologie, c'est-à-dire cette volonté d'intégrer les SIRH, les systèmes d'information RH, comme ça a été fait dans le privé, et le numérique aussi. Déjà, c'était une première chose. Pour vous, quel risque vous voyez inhérent à cette technologie?
Tu peux peut-être expliquer ce que ça signifie, le système RH?
Le système informatique RH, c'est en fait quand on s'abonne à des offres, comme sur beaucoup de sites maintenant, sans les nommer, pour avoir les offres en ligne, donc avec des robots qui font de la recherche automatique, multicritères. Donc par exemple, je cherche une offre de chauffeur-livreur, je vais mettre la durée, je vais mettre l'éloignement géographique en kilomètres, etc. Et ça tourne tout seul. Moi, j'appelle ça les cannes à pêche, comme au bord du lac. Ou encore, faut-il qu'il y ait un poisson qui passe. Mais donc, il faut appâter. On met son CV en ligne. Le CV, il est aussi un peu dématérialisé, avec des mots-clés. Donc, on peut faire une recherche automatique derrière. Enfin, tout ça, c'est un gros robot. Mais derrière, si, comme je dis toujours, il faut connaître Ginette au péage et lui demander quel est le meilleur restaurant dans son village. Si on ne trouve pas Ginette, si on ne trouve pas le bon orientateur, on est un peu perdu, on est un peu noyé dans un rapport qui est assez de masse en fait, qui massifie les rapports humains. Même chose pour les chercheurs d'emploi qui ont des accusés de réception parfois, ils ont envoyé leur CV mais ils n'ont jamais rencontré quelqu'un. Donc il y a un côté déshumanisant dans la technologie qu'on voit aussi dans les cabinets de ressources humaines, sans les nommer non plus, qui vont convoquer 6 fois, c'est un peu Men in Black, des consultants bien gris, bien noirs, en costume noir, et qui vont poser les mêmes questions, 6 fois, toujours les mêmes questions pour un poste donné, autant les convoquer 6 fois, hein. Moi, je m'inquiète quand même, c'est sur ces dérives, parce que la technologie ne permet pas est en roue libre. Et le code du travail, d'après moi, n'intègre pas suffisamment ces aspects-là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pression presque dominatrice sur certains candidats pour qu'au bout du sixième entretien, mais ils consentent à une baisse de salaire, après tout. Mais qui interdirait d'ailleurs à un cabinet de recrutement de les convoquer six fois ? Je jette un pavé dans la mare, là.
Écoutez, bon, moi, il se trouve, dans ma vie antérieure professionnelle, j'ai travaillé près de 30 ans dans une société de services et de services informatiques en particulier. Mm-hmm. Donc, bon, c'est une question que j'ai pu aborder. D'une façon globale, on peut dire, la technologie, pour autant qu'elle soit bien maîtrisée, je vais revenir là-dessus, c'est plutôt un grand progrès et ça peut énormément aider, évidemment. Après, il faut au moins deux grandes conditions. D'abord, c'est vrai, il faut que les systèmes fonctionnent bien. Il n'y a rien de pire qu'un système qui reste avec des erreurs, des bugs, etc. Bon, tous les systèmes conservent des bugs, mais il faut absolument minimiser ce nombre de bugs, voire essayer malgré tout de le supprimer. Et ça, c'est assez fondamental, parce qu'un système qui ne fonctionne pas bien, évidemment, là, ça décrédibilise non seulement le système informatique, mais toute une organisation autour. Et puis la deuxième condition fondamentale, et celle-là, c'est vrai, on l'oublie souvent, c'est qu'il faut que l'homme garde la main. C'est quand même l'homme qui a gardé le système.
Oui.
Moi, j'entendais parfois des gens qui me répondaient, là, quand je faisais appel à leur service, à la réglementation ou ailleurs, chez Pôle emploi, pour aider à résoudre la situation d'un chômeur. On me dit « Ah mais non, mais le système ne le permet pas ». Où l'applicatif ne le permet pas.
Voilà.
Et je trouvais ça assez extraordinaire. L'applicatif, c'est nous qui l'avons fait. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où on dit, maintenant, l'applicatif, le système ne peut pas le faire. Ah, ça, ça me fichait un petit peu en rogne. Bien sûr que le système peut le faire. C'est nous qui commandons. Mmh. C'est l'homme qui commande, c'est pas encore le système. Mmh. Alors là où il faudrait arriver à avoir construire une organisation qui s'appuie bien sur la technologie. Il y a beaucoup de cas relativement simples, de transactions, entre guillemets, assez simples. Bon, je prends l'inscription, hein, par exemple, hein, qui est une des transactions les plus simples, mais il peut y en avoir tout un tas d'autres, qui gagnent à pouvoir être faites de façon informatique, sans mobiliser pour autant des conseillers. Bon, et ça peut permettre de libérer du temps de conseiller pour faire des choses plus spécifique, plus pointu, et en même temps, ça peut permettre d'accélérer le traitement, donc malheureusement de traiter de plus grand nombre de chômeurs. C'est comme ça qu'il faut utiliser la technologie. Mais il faut aussi savoir reprendre la main pour des choses un peu plus compliquées, pour un contact fréquent, parce que c'est vrai que les chômeurs demandent des contacts humains et qu'ils en ont besoin parce qu'ils se retrouvent dans une situation fragile, ils n'ont plus de boulot. Parfois, malheureusement, on sait bien que comme ils ont beaucoup moins de revenus, d'autres problèmes arrivent tous ensemble entre le logement, la famille, même la santé, etc. Donc, ce sont des gens qui sont souvent en situation vraiment d'exclusion, qui ont parfois vraiment une grande souffrance à se sentir exclu de la société où tout le monde court dans son métro pour aller travailler. Et c'est là qu'il faut leur apporter évidemment un soutien humain plus important. Donc, il faut arriver à marier l'utilisation d'une technologie bien maîtrisée et qui fonctionne très bien pour des transactions et des choses simples, répétitives, où il n'y a pas besoin de l'homme parce que c'est pas compliqué. Et puis, que l'homme reprenne vite la main quand il faut, là, pour le coup, instaurer un dialogue, comprendre des situations plus compliquées. Ça. C'est très difficile de trouver cet équilibre, évidemment. Mais il faut surtout pas se laisser aller par la machine. Moi, je disais parfois, je l'ai dit en remettant mon rapport, je me souviens, j'ai dit, le système avance tout seul. C'est le système qui envoie tous ces courriers automatiques qui ne sont pas signés. Et ça, le système, il n'a pas d'état d'âme, sauf que quand c'est les sûr. Personnes reçoivent des courriers pas signés ou elles ne comprennent pas ce qu'on leur dit, ou parfois on leur demande des indus plus ou moins justifiés, c'est une vraie agression qu'elles perçoivent.
Dans votre fonction qui était centrale, vous avez vu ce danger du transfert, je dirais, de l'humain vers la machine, parce qu'en fait, il y a une espèce de transfert de responsabilité globale qui est dangereux.
Mais je crois que vous avez prononcé le mot, hein, le mot de responsabilité. C'est nous, les hommes, qui restons responsables. La machine, elle nous obéit. Elle ne fait que ce qu'on lui a dit de faire.
On va passer un peu de musique, juste faire un petit intermède musical. Bon, les Clash, ils vont nous parler, je pense, de rapport humain. Welcome to the Casbah Club. Oui, nous avons un auditeur en ligne, me dit la régie, donc Joël, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci de nous appeler. Tu voulais réagir par rapport à ce qu'on a dit à l'antenne ?
Oui, 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 tout à fait. Pour deux choses déjà. Monsieur Genulli, donc ancien médiateur donc de Pôle emploi. Première chose, j'ai par rapport à l'histoire de des retraites, j'étais assez frappé comme quoi le discours de l'État est bien passé, puisque il faut quand même faire une différenciation entre chômeurs, c'est-à-dire entre chômeurs qui ont bien travaillé toute leur vie et puis ceux effectivement qui ont moins travaillé, donc qui seront quelque part un petit peu punis. Donc je trouve que le discours de l'État à ce niveau-là est bien passé, même au niveau du médiateur. Deuxième chose, par rapport à Pôle emploi, il faut quand même se souvenir de certaines choses, et d'ailleurs même le personnel de Pôle emploi pour ça est assez remonté là-dessus, c'est que Pôle emploi est un montage assez, enfin, si on peut utiliser ce mot, diabolique. Hein. Dans le sens où Pôle emploi, c'est quand même la fusion de deux entités qui marchaient relativement bien. Il y aurait fallu sûrement des améliorations, mais on a décidé de tout casser un peu comme un jouet, et puis de reconstruire un autre jouet, et qui a coûté extrêmement cher d'ailleurs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des difficultés. Il faut savoir notamment, quand on parlait de contrôle, mais il y a notamment le contrôle des cartes d'identité, c'est-à-dire avec ce qu'on appelait la lampe bleue. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez pervers.
Et dangers de dérive effectivement.
Il y a des dérives, mais c'est quand même des dérives qui sont faites pour l'idée aussi, hein, c'est quand même de raboter, puisque c'est le terme un petit peu actuellement, un petit peu de raboter les chiffres aussi, et de pouvoir présenter des chiffres un peu présentables au public, même si maintenant les gens ne se font plus trop avoir là-dessus, mais bon, on continue quand même là-dessus. Et l'idée aussi, c'est que par rapport à Pôle emploi, le personnel est mis sous pression. Et c'est une pression, nous, on a vu des personnels travailleurs à Pôle emploi, ça devient intenable.
Il y a de la souffrance sociale aussi chez les conseillers emploi. Hein.
Tout à fait. Et la dernière chose, c'est aussi l'externalisation du chômage chez Pôle emploi, puisqu'il faut savoir que pour certaines... pour les licenciements notamment, Pôle emploi désigne des prestataires privés. C'est-à-dire que les chômeurs, mine de rien, c'est une bonne variable d'ajustement pour certaines boîtes privées. Alors moi, je veux bien, effectivement, qu'il y ait un médiateur, mais je trouve que c'est un petit peu léger par rapport à tout ça.
Voilà. Joël, on a bien compris ton voilà. intervention. Est-ce que tu aurais une question spécifique à poser à M. Genulli ?
Voilà, c'est effectivement, je trouve que toutes les questions sont là, c'est-à-dire... pourquoi effectivement Pôle emploi aujourd'hui, pourquoi ne pas avoir effectivement amélioré ce qui fonctionnait auparavant et aujourd'hui se retrouver avec un truc quasiment incontrôlable, quoi.
On peut peut-être commencer par la fusion à une PE.
Oui, une raison, la raison de base de la fusion, hein, Joël, on peut aussi dire ça.
Oui, pardon, juste pour réagir en deux mots, hein, c'est la première partie de l'intervention, oui. je voulais pas dire... Bien entendu, qu'il fallait traiter plus mal telle catégorie de chômeurs qui avaient moins bien travaillé, etc. Enfin, ce genre de discours que vous avez sorti, c'était pas mon propos. Mon propos était de dire c'est très compliqué parce qu'il y a une grande diversité des situations. Et bien entendu, des personnes qui sont dans des situations plus précaires, il faut pouvoir appliquer ces dispositions sur la retraite de façon humaine et correspondant à leurs difficultés. Je n'ai pas de solution sur le plan technique, mais tenir compte de tous les cas particulier, c'est important. Pour ça, je disais qu'il fallait représenter aussi ces personnes.
La question qui est sous-entendue, c'est quand même, peut-on avoir droit à une retraite sans avoir travaillé ? Et c'est une question qui n'est pas traitée actuellement et dont on peut... le traitement différencié implique aussi...
Joël, est-ce que tu vas encore réagir sur ce qu'on dit ?
Sur la fusion. Sur la fusion, bon, c'est une fusion de grandes organisations qui est évidemment très compliquée. Mon point de vue personnel, je ne suis plus un médiateur à Pôle emploi, c'est qu'on aurait pu la mener beaucoup mieux pour qu'elle soit plus efficace. Parce que l'idée et le principe est plutôt sain. Plutôt que d'avoir N organismes en face d'un chômeur pour traiter les différentes questions, d'en avoir un seul qui peut traiter l'ensemble des questions, c'est plutôt une bonne idée et un bon principe. Encore faut-il derrière pouvoir la mettre en œuvre concrètement, très correctement. Et ça, c'est vrai que ça a été difficile, parce que je crois que, par exemple, on a voulu que chaque conseiller sache tout faire, des métiers du placement de l'ex-ANPE et des métiers de l'indemnisation des ex-ACEDIC. Et c'est très compliqué, avec une séance de formation de quelques jours, de rattraper toute l'expérience, tout l'acquis du métier qui est différent du sien, que certains ont parfois depuis 20 ou 30 ans. Donc en plus, on a bloqué un petit peu les personnels et les agents de part et d'autre. Et ça, c'était dommage. Ce n'est que maintenant, je crois savoir, 18 mois après, qu'on s'aperçoit qu'il y a des métiers différents et qu'il faudrait savoir faire composer les gens avec des métiers différents, mais les faire travailler ensemble plutôt que de rêver que quelqu'un sache tout faire.
Il y a aussi un aspect qui est assez, je dirais, sensible, c'est quand même les quartiers où il y a beaucoup plus de chômage qu'ailleurs, malgré les politiques de la ville successives. Ça n'a jamais freiné le turnover d'effectifs conseillers. Exactement les mêmes problèmes qu'on trouve à l'éducation nationale, en fait. Et en fait, est-ce que vous avez déjà quelques idées sur la façon dont ça aurait pu être mieux géré? Parce que c'est vrai que quand on déplace, si vous voulez, les missions et de deux établissements si importants, je dirais là où il y a la plus grande sensibilité sociale, il me semble que c'est quand même là qu'il faut faire attention avant de bouger le bateau, quoi.
Oui, bien sûr. Enfin, je crois que cette fusion, c'est surtout traité sur un plan d'organisation mécanique et par le haut, quoi. On a fait l'organigramme du haut. D'abord, ça a pris un certain temps, on a descendu les échelons. Pendant ce temps-là, il continuait d'y avoir des usagers, des chômeurs qui se pressaient au guichet et il n'y avait pas encore en face d'eux l'organisation pour les accueillir. À mon sens, il aurait fallu prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire s'occuper du plus important. Qu'est-ce que c'est le plus important pour Pôle emploi? C'est l'usager, c'est le chômeur. Et on doit tout construire autour. Et l'organigramme de la direction générale, c'est la dernière des préoccupations. C'est les personnes qui sont le plus éloignées du chômeur. Donc c'est ça qu'il faudrait traiter plutôt en dernier. Bon, je sais que c'est un peu caricatural pour présenter la chose, mais je crois que c'est important qu'il aurait fallu d'abord chercher à organiser localement dans chaque agence l'accueil des chômeurs pour savoir comment pouvoir au mieux traiter le besoin. Et la deuxième personne la plus importante, c'est le conseiller ou les conseillers qui accueillent les chômeurs. Tout aurait dû se construire à partir de ces personnes-là. Après, on monte l'édifice. C'est plus facile. On en trouvera toujours des directeurs.
Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, puisqu'on va bientôt conclure, les raisons de votre démission?
Je pense que le dispositif de médiateur qui a été créé par la loi du mois d'août 2008, avant la création de Pôle emploi, et qui répondait aux besoins des gens qui s'étaient exprimés au Grenelle de l'insertion pour dire il nous faut un recours, il faut qu'on puisse s'adresser à quelqu'un quand on est en face de Pôle emploi parce que on a des difficultés parfois et on veut pouvoir être sorti de ces difficultés ou qu'on nous explique. Donc le médiateur, c'est une fonction assez vitale pour moi et qui doit être vraiment une fonction facteur de progrès de l'organisation. C'est-à-dire que les dysfonctionnements qu'on repère, qu'on relève, que j'ai consigné pour une grande partie dans le rapport annuel que la loi me demande de faire chaque année, ces dysfonctionnements derrière, il faut aussi qu'ils se tournent en propositions pour s'améliorer. Et ma foi, je vois que cette fonction du médiateur qui est vertueuse, qui est pour améliorer l'organisation de Pôle emploi, finalement, on a perçu mon rapport beaucoup plus comme une critique. On n'a pas vraiment cherché à en tenir compte, alors que c'était plus constructif que critique. Et puis, je vois que cette fonction a eu du mal à s'installer, parce qu'on est dans une organisation qui supporte mal ce qu'elle perçoit comme une critique, alors que c'est plutôt pour la faire avancer. Et le fait qu'il y ait très peu de support au niveau de la direction générale, le fait qu'on ne donne pas vraiment suite à mes demandes, qu'on n'ait pas réussi à créer un corps indépendant de médiateurs, qui soit un peu indépendant et libre, donc de dire les choses qui ne vont pas, mais toujours dans l'esprit de pouvoir les améliorer. Je me suis posé la question à un moment, je me suis dit, il y a deux solutions, soit je me résigne et puis je fais un peu ce que je peux avec des petits moyens, soit je marque un peu le coup en montrant par ma démission qu'il faut prendre en compte plus sérieusement cette fonction du médiateur.
Alors, on va bientôt terminer cette émission. Monsieur Genuini, après ce départ, vous continuez à vous investir en faveur de la lutte contre la pauvreté. Vous avez une association, Passerelle Numérique. Vous pouvez nous en parler très rapidement?
Oui, Passerelle Numérique, c'est une association qui existe depuis près de 6 ans maintenant. Et l'idée m'est venue quand je travaillais dans l'informatique, d'offrir aux enfants les plus pauvres, et ça a commencé au Cambodge, maintenant on est au Vietnam et aux Philippines, une formation qui leur permette d'apprendre l'informatique et d'avoir un métier dans l'informatique.
D'accord.
Les enfants les plus pauvres qui n'auraient pas pu accéder sinon à l'université.
Parfait. Je vous propose, moi, comme on est un peu pris par le temps, de vous inviter à une prochaine émission,
quand vous voulez.
Ça nous ferait très plaisir de vous accueillir à nouveau pour nous parler plus en détail de ces actions.
Merci.
Merci à vous.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Merci. Au revoir.